Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est un concept devenu relativement populaire depuis René Girard, ce grand anthropologue français, celui du bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est peut-être le fil conducteur de notre émission cinéma de ce mois d'octobre, l'histoire d'enfants juifs recueillis par un couple extraordinaire pendant la Seconde Guerre mondiale, autorisés à redevenir des enfants, tout simplement, avec Pingouin et Goéland de Michel Leclerc. L'histoire d'un idiot du village, comme on disait autrefois, qui par la grâce d'une rencontre et de la lecture retrouve sa dignité par la force des mots, avec La tête en friche de Jean Becker, et l'histoire d'une femme enceinte et sans mari, dans un pays où ça ne se fait pas, une paria des temps modernes dont la fragilité redonne la vie, avec Adam de Mariam Touzani. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, notre rendez-vous cinéma, cette fois à la bonne date, le premier vendredi de chaque mois. Et nous sommes avec vous, Paul Dima, toujours intervenant cinéma pour les Coteaux Pays et Centre Jésus dans le Sud-Ouest. Bonjour.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, mercredi 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, et puis bonjour Paul.
Ça fait tôt pour vous quand même, hein, 9h.
Pour moi c'est l'aube.
Oui c'est ça. Et tous les deux donc animateurs d'un ciné-club, au cinéma L'ABC, ce cinéma d'art et d'essai à Toulouse. Trois films à l'affiche, donc le premier, Pingouin et Goéland, de Michel Leclerc. Donc votre ciné-parole, le nom de votre ciné-club sera justement sur ce thème, ça sera mardi prochain, ouais. Je vais y arriver, mardi 9 novembre, j'avais tout d'un coup un doute, à 14h30, mais on redonnera toutes les informations. On va commencer par écouter la bande-annonce de ce film.
C'est l'histoire d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est l'histoire d'un couple qui en a eu des centaines. C'est l'histoire d'un couple de pédagogues visionnaires, mais aussi de militants syndicalistes, de pacifistes acharnés, d'anards, de féministes, qui ont profondément marqué tous ceux qui les ont rencontrés.
Ces méthodes d'enseignement portent surtout sur l'observation.
C'est l'histoire de la Maison d'Enfants de Sèvres, une expérience unique d'éducation qui a permis à des enfants terrassés de renaître à la vie par la curiosité, la prise de risque et l'ouverture aux autres. C'est l'histoire d'un couple de résistants qu'on a accusé d'être des collabos. C'est l'histoire de gens intègres dans une époque qui ne l'était pas.
Ils ont des cas sociaux, ils ont des orphelins de guerre et ils vont y joindre des enfants juifs. Ils vont planquer.
Maréchal, nous voilà.
Maréchal.
Zut, on leur avait pas appris.
Et puis c'est un peu mon histoire, puisque ma mère a passé dans cette maison toute son enfance, jusqu'à son mariage.
On vous a vu sur les photos.
Ah ben moi je me suis pas vue du tout, disons.
Juliette, ma mère, et ses copines de Sèvres. C'est l'histoire d'Yvonne et Roger Agnoer, que tout le monde appelait Goéland et Pingouin, les seuls vrais héros de ma mythologie personnelle.
On ne veut pas abandonner ce qui nous reste et ce qui nous reste à tous de la Maison de Sèvres.
Voilà, ça c'est pour la bande-annonce, donc Pingouin et Goéland, avec ce sous-titre qui fait partie du titre en fait, « Et leurs 500 petits ». C'est donc un film de Michel Leclerc. L'histoire, on l'a compris, même si je vais vous laisser compléter. Peut-être une manière de nous aider à rentrer dedans, Louis-Marie, c'est le style. C'est un mélange.
Oui, c'est-à-dire que Michel Leclerc, c'est basé... Alors ça a été compliqué, ça a été très compliqué pour lui, parce qu'il a fallu 25 ans pour arriver à produire, à réaliser ce film, parce que il avait la première chose, c'est que sa maman, qui on l'a compris dans la bande-annonce, a été pensionnaire de la Maison de Sèvres et ne voulait pas que la faire parler ou qu'il en parle et qu'il de cette façon qu'il parle d'elle. Et puis ensuite, il y avait beaucoup de documents à traiter, des archives d'actualité, des montages vidéo, en fait pas des montages, des vidéos qui avaient été faits par les pensionnaires, et puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos.
Est-ce qu'il y a des films de propagande de Pétain.
Les films de propagande de Pétain, il y avait tout ça à traiter, parce qu'en plus il ne voulait pas faire un documentaire historique, quelque chose de pas classique et finalement en optant. Alors, il a dit que c'est parce qu'il avait, on lui avait donné, une pensionnaire avait filmé un entretien avec Yvonne et Roger, qui lui avaient donné cet entretien. Il avait enfin leur parole. Et en se basant sur leur parole, plus tous les documents dont on vient de parler, sa mère étant décédée, il a pu réaliser le film. Il a attendu que sa maman ne soit plus là.
Il y a aussi un peu de film d'animation dedans.
Et ensuite, pour certaines scènes, oui, effectivement, il a recours à l'animation et un spécialiste de l'animation, un réalisateur de dessins animés, on pourra dire comme ça, Sébastien Lodenbach, à qui on doit La jeune fille sans main, un film d'animation éblouissant qui donne justement un peu de cette légèreté pour justement parler de la façon dont sa mère est arrivée dans cet endroit. Quelque chose d'un petit peu obscur, et en le mettant à l'image de cette façon, ça le rend plus léger, voire malicieux.
Alors on va revenir sur l'histoire, et puis on écoutera un autre extrait, et entre autres donc sur la maison d'enfants de Sèvres. Pour le présenter peut-être pour un film qui se veut être un film documentaire, un film d'histoire, une musique comme ça, ça laisse entendre que voilà, il y a une c'est comme un conte, ai-je lu.
C'est comme un conte et ça se veut, Michel Leclerc, que j'ai vu à l'avant-première au cinéma ABC, qui était là après la séance, a dit qu'il voulait faire un film joyeux et dynamique dans une période qui était sombre et écrasante. Et de fait, il l'a conçu un peu comme un puzzle. Alors au début, ça déroute un peu parce qu'il y a des images, on revient en arrière, on dit ça, on va pas en parler maintenant, on verra ça plus tard. Et puis en fait, à la fin du film, on voit la cohérence de l'ensemble. Et cette cohérence, c'est à la fois l'implication du réalisateur, donc de Michel Leclerc, par sa mère, mais aussi par l'admiration qu'il voue à Pingouin et Goéland pour tout ce qu'ils ont réalisé, et de façon très astucieuse. C'est-à-dire que la meilleure façon de se planquer, c'est de ne pas se planquer. C'est-à-dire que la maison de Sèvres a tellement bien fonctionné qu'elle est devenue la vitrine cinématographique de la France vichysoise qui accueillait tous les enfants délaissés de la guerre, etc. Sauf que parmi eux, il y avait aussi des enfants juifs et que ça n'est jamais paru.
Donc la maison de Sèvres, on va écouter un autre extrait qui parle un petit peu de la maison de Sèvres. Donc c'est pour ceux qui n'auraient pas complètement compris. Donc c'est ce lieu qui a été tenu donc pendant longtemps par Yvonne et Roger Hagnauer, ce couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui en a accueilli plus de 500, donc dont des enfants juifs. Et puis on reviendra, c'est des enfants qui pour certains sont devenus célèbres, même ai-je lu Paul-Émile Victor, qui serait passé par là, le mime Marceau et autres. On écoute un extrait.
Ce que Goéland demandait aux enfants de Sèvres, c'était d'oublier leur peine. Elle les aidait à cela. Elle les autorisait à l'oubli et ça les soulageait. Se souvenir des belles choses plutôt que des mauvaises, le droit à l'oubli plutôt que le devoir de mémoire. Toute mon enfance, je voyais ma mère et ses copines, et j'ai ignoré jusqu'à très tard qui était juive, qui ne l'était pas, qui était orpheline, qui était à moitié orpheline, qui ne l'était pas. Leur identité n'était pas basée sur leur traumatisme passé. Elles ne se présentaient pas comme ça, parce qu'elles ne se vivaient pas comme ça.
Alors, La Maison de Sèvres, Paul Dima, dites-en un petit peu plus que vous en avez compris. Comment les enfants vivaient-ils dans cette maison et quelle était cette pédagogie si novatrice qui était utilisée?
Alors, c'était justement dans la ligne de la recherche pédagogique, dite pédagogie nouvelle, initiée en Belgique. Et puis, dont il y a eu aussi des écoles très importantes en France, Montessori et autres. Où on s'attachait à la curiosité des enfants, à développer leur curiosité et le savoir-faire manuel et ensemble. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement des approches intellectuelles abstraites, mais en faisant, par exemple, des maquettes, en allant visiter, eh bien, il travaillait l'histoire, il travaillait les mathématiques, il travaillait le français, mais c'était toujours en lien. Et les enfants, et on voit des reportages de l'époque, se prenaient au jeu, ils étaient vivants, et ils réalisaient plein de choses extraordinaires, des journaux, des spectacles. Ils sont allés sur des scènes importantes à Paris, je ne sais plus lesquelles, mais enfin, c'était des gamins vivants, alors que, pour la plupart, c'était des gamins. Alors, les enfants juifs, eux, étaient menacés de mort. Et d'autres avaient été abandonnés ou victimes de la guerre, les parents décédés, etc. Donc, c'est ce qui ressort des reportages filmés par les anciens de la maison, qui se retrouvent même après la mort de Goéland et Pingouin, parce qu'ils ont envie de faire mémoire de toute cette vie qu'ils ont reçue et qui les a construits pour la vie.
Et puis une école qui est une maison, justement, c'est-à-dire une manière de vivre qui est comme à la maison, avec une responsabilisation de chacun.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et
qui fait partie de la pédagogie aussi.
Qui fait partie de la pédagogie, avec une ouverture à cette époque-là impensable, peut-être même aujourd'hui.
Ils se sont même arrangés pour garder les plus âgés, puisque en principe, à la majorité, ils devaient quitter l'établissement, et c'est Yvonne qui a fait en sorte de pouvoir garder les filles, dont parle beaucoup Michel Leclerc dans le film, puisque sa mère en faisait partie, et de façon à leur permettre de continuer leurs études, puisqu'elles ont fait des études pour la plupart, ces filles-là en particulier, elles étaient une quinzaine. C'est alors une chose à propos de pourquoi Pingouin et Goéland. Alors Paul disait que la meilleure façon de se cacher, c'est d'être au grand jour, c'est ce qu'ils ont fait, avec la maison de Sèvres, devenue une vitrine pour le régime vichyste. Mais pour être sûr de ne pas se tromper dans les noms, le mieux, c'est d'utiliser le totem qu'on avait quand on était scout. Et c'est pour ça qu'il s'appelait Pingouin et Goéland. Mais tout le monde avait un totem. Alors on se souvient d'eux, là, mais il y avait Coccinelle, tous les adultes, parce qu'ils accueillaient aussi des adultes qui étaient en perdition. Tous les adultes avaient un nom de totem, donc personne n'était appelé par son nom.
Personne ne savait l'identité réelle des autres. Et il y a une enfant qui raconte, enfin une adulte qui raconte que dans son voyage en train pour aller à la maison de Sèvres, eh bien tout le trajet du voyage, c'est comment tu t'appelles, ah ben je sais plus, et voilà, il fallait qu'ils répondent à leur nom de totem et non pas leur nom à eux.
Alors parmi les critiques, j'en ai trouvé deux. Le Nouvel Observateur, entre images d'archives, témoignages et un peu d'animation, l'auteur du Nom des gens relate le destin de ces justes galvanisants. Et dans Télérama, enquête sur ses propres racines, Michel Leclerc découvre l'importance d'un certain Marcel Manguel, futur mime Marceau, mais s'interroge aussi face caméra sur le poids de la transmission et de l'identité, ou comment réussir une œuvre d'une tendresse bouleversante sur la force du souvenir. Louis-Marie Soler, vous pouvez nous dire peut-être un petit peu plus de cette Yvonne et Roger Agnoer, donc à qui on a fait aussi un mauvais procès après-guerre. Je l'ai lu dans une critique des Inrecuptibles, qui était un peu moins tendre, alors je ne l'ai pas choisi celle-là.
Oui, parce que de toute façon, Roger et Yvonne Agnoer étaient, comme le dit Michel Leclerc dans sa présentation, ils étaient militants syndicalistes, pacifistes, antifascistes, ils étaient communistes aussi, puisqu'à un moment, Roger a eu la carte du parti avant d'en être exclu. C'est qu'il en a été exclu, et ce que les communistes n'ont jamais pardonné à Roger, c'est de ne pas avoir été stalinien, ou tout au moins d'avoir critiqué Staline. Ce qui explique ce qui leur est arrivé à la fin de la guerre, et qu'on les ait accusés de collaboration, puisque avant la guerre, ils avaient signé un manifeste pacifiste, et dans parmi les signataires du manifeste pacifiste, il y a quelques-uns des noms qui apparaissaient, qui sont devenus des collabos notoires, des types peu fréquentables, effectivement, qu'on chassait à la Libération, et on en a profité pour les mettre au banc de la société, mais grâce à toutes les familles et tous les enfants qui sont passés par leur maison, ils ont été réhabilités et élevés au rang de justes par Israël.
Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, c'est donc ce film à l'affiche que l'on peut voir en ce moment. Et donc, on pourra en parler avec vous à l'occasion de ce prochain Ciné-Parole, 9 novembre prochain. Une séance à 14h30 au cinéma L'ABC à Toulouse. On fait une première pause et puis on va parler de notre deuxième film, La tête en friche de Jean Becker. Et la musique est une musique de ce film dont on va parler.
Composé par Laurent Voulzy. Alors pour la petite histoire, puisque dans ce film il y a Gérard Depardieu, on n'entend là qu'une version instrumentale, il n'y a pas de texte, ça aurait dû être une chanson. Gérard Depardieu avait écrit quelques mots et avait dit, et puis ça n'a pas été retenu. Donc on entend ben, ce qu'on entend dans le film, seulement la musique, composée par Voulzy.
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma avec Paul Dima, intervenant cinéma pour les Côtes au Pays, et Louis-Marie Soler, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse. Deuxième film, La tête en friche, c'est donc un film de Jean Becker, c'est un film français, sorti en salle en 2010. On va tout de suite écouter la bande-annonce.
Salut Germain!
Salut Polo!
Salut Germain!
Ah, Germain! Viens, c'est mon anniversaire!
Je disais à Jojo qu'il avait du beau d'être cuisinier. En s'appelant The Cook.
Germain,
oui.
Je m'appelle Joël Pelletier. The Cook, c'est parce que j'ai été en Angleterre. Ah. Alors c'est un surnom.
C'est comme si on disait de toi The Con, tu vois.
Germain, il est pas plus con que vous. En plus, c'est le plus gentil.
Je m'appelle Marguerite, avec deux T.
Et vous venez souvent ici?
Presque tous les jours que le bon Dieu fait. Aimez-vous lire?
C'est compliqué la lecture, tu sais, toi je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule.
Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons?
Mais ça peut pas exister. Comment ça s'appelle?
La peste.
Ah,
d'Albert Camus.
Albert ? Ah ben c'est comme mon grand-père.
Alors, avec un dictionnaire, on voyage d'un mot à l'autre, on rêve.
Annette.
Alors c'est ce soir que tu me fais un petit ?
Annette. Ah bah c'est pas comme ça que ça s'écrit, ça.
T'as lu Camus, toi ?
Bon, pas tout, hein, la peste, la chute, l'étranger.
Je suis née d'une histoire d'amour. Enfin, comme tout le monde.
Non, pas comme tout le monde.
Oh, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais ?
Rentre dans ta niche, toi !
J'aurais une mère comme ça, j'oserais même pas être son fils.
On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère.
Comme un chien abandonné.
Ça, c'est vrai. Hein. C'est très vrai, ça. Tu as raison.
Vous avez une excellente mémoire auditive.
Non. C'est surtout que je retiens ce que j'entends.
C'était pour qui, les fleurs ? Parce que ce matin, quand j'ai vu le bouquet sur la table, j'ai cru que c'était pour moi. Comment elle s'appelle ?
Elle s'appelle Marguerite, avec deux T. Les fleurs, c'était pour elle. Elle a 95 ans. Oui, je l'aime. Ça te va ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Vous êtes quelqu'un de très bien, Germaine.
Voilà, ça c'est donc pour la bande-annonce. Alors on l'a compris, au cas où vous n'auriez pas suivi, c'est donc l'histoire d'un certain Germain, en l'occurrence incarné par Gérard Depardieu, et d'une rencontre, comme on en rêve tous presque, voilà, qui vient un peu faire basculer une vie, qui va redonner à cet homme sa dignité, Marguerite, pardon, qui est jouée par Gisèle Kassatsu, et qui donc est une vieille dame, comme on l'a entendu, dont Germain se prend d'affection. Voilà, c'est une histoire d'amour d'une certaine manière entre eux. Que dire d'autre ? L'intrigue est simple, non ? Paul Dima, qu'est-ce que vous rajouteriez ?
Oui, comme la plupart des films de Becker, c'est un cinéma qu'il décrit lui-même comme simple et vrai. Alors, on a vu Les Enfants du Marais, on a vu Parle avec le jardinier, Dialogue avec mon jardinier.
Oui, oui, voilà. Et puis il y avait des choses un peu plus délicates. En fait, c'est quand même à lui qu'on doit L'été meurtrier en 83. Grand succès. Avec. Il y avait Alain Souchon dans le film qui jouait le rôle de Pimpon.
Voilà, donc en tout cas, le cinéma de Jean Becker, l'intrigue est simple.
L'intrigue est simple.
On peut en dire peut-être un peu plus sur Germain, alors, parce que Germain, c'est l'idiot du village, mais c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est plus complexe, puisque ce Germain, il a eu une enfance difficile, parce qu'une mère avec beaucoup de caractère et pas que du bon, et assez fantasque, et qui ne s'est pas vraiment occupée de lui. Et son père, n'en parlons pas, elle a eu assez vite un amant qui tapait et sur elle et sur lui. Et puis alors, à l'école du village, alors là, l'éducation nationale ou les instituts ne sont pas gâtés avec Las Palès, qui joue le rôle d'un instituteur, qui ne perd pas une occasion de ridiculiser cet enfant. Mais il est ridiculisé partout au cours de son enfance. Et au cours du film, il y a des flashbacks qui renvoie à des scènes qui l'ont traumatisé à vie. Hein, c'est l'idiot, mais en fait, comme dit la tenancière du bistrot qu'on a entendu dans la bande-annonce, il n'est pas si bête que vous le dites, et puis lui, il a un cœur gros comme ça. Et c'est vrai, alors c'est un peu simpliste, mais l'histoire est plus subtile que on veut bien le dire, c'est-à-dire que il y a une vraie rencontre qui se fait, très pudique et progressive, où lui s'éveille à ce qu'il n'a jamais connu, la littérature, l'amour des mots, et puis l'attachement à cette vieille dame fragile qu'il va ensuite héberger à la fin de sa vie parce qu'elle est rejetée de la pension où elle est, parce que ça coûte trop cher à sa famille.
Alors on va écouter un premier extrait qui revient sur sa mère, enfin une scène, donc un flashback où sa mère, Jackie, on va dire, n'est pas très tendre avec son fils.
Bonjour. Ah bah bravo. Non mais quel taré.
Laissez Madame Chasse, je m'en occupe.
Non, je vais le faire. Pousse-toi. Il me fait que des bêtises et je suis polie. Déjà, quand il est né, on a dû me le tirer au forceps. 10 heures à souffrir, pire qu'une bête tellement qu'il était gros. 10 livres. Vous savez ce que ça fait, 10 livres? Ça fait 5 kilos. Ça fait ça. Un filet de patate, un paquet de riz, une bouteille d'huile, une litre de margarine. Et après, on se retrouve avec ça. Ça mange, ça coûte, c'est sale. C'est toute la satisfaction que ça donne.
Ça. On parle d'un être humain en l'appelant ça. Même un chien, je l'appellerais toi comme ça. Si j'avais un chien, j'ai au moins le chien.
Voilà, ça finit de planter le décor. On peut dire aussi, Louis-Marie, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans un bistrot français.
Ah ben bah oui, bien français.
Cocorico.
Ah, oui, bien français.
Francine est au comptoir.
Oui.
En cuisine.
Les brèves de comptoir. The Cook.
The Cook
qui a de la chance.
Qui est un acteur connu, en l'occurrence, non? Bon, peu importe. Bref.
Alors là, du coup, j'ai un trou.
The Cook, il y a celui qui est veuf. Il y a le malade ou qui aimerait draguer. Bref, il y a un peu, il y a toute la France quoi dans le bistrot.
Ah oui, c'est un bel éventail là. Jean Becker n'a pas peur des images, n'a pas peur des clichés aussi. Il réunit tout dans ce café, ce bar-restaurant où tout le monde se retrouve. On peut boire un coup, on peut manger, on peut discuter, on peut se faire foutre de sa gueule aussi, souvent, ce qui arrive souvent à Germain. Mais c'est son univers, et de toute façon, comme l'a dit la tenancière du bar, il a un cœur gros comme ça, donc bon, les méchancetés qu'on lui fait ou qu'on lui dit, ça peut lui passer au-dessus de la tête, pas toujours, il arrive à composer grâce à ce cœur justement, énorme.
Alors, ce qu'on peut dire maintenant, c'est au fait le fond aussi de l'affaire. Donc, évidemment, c'est cette relation avec Marguerite. Et c'est donc la place des mots et de la lecture. Je le disais dans mon introduction, on a l'impression que voilà, ce qui redonne à Germain sa dignité, c'est d'arriver aussi à mettre des mots en fait, sur ce qu'il a vécu, donc à maîtriser la langue française. Voilà, des émotions à la lecture, il y a cet intermédiaire qui est donc la verbalisation pour lui-même. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, Paul Dima?
Oui, la guide, la vieille dame, se rend compte rapidement que cet être un peu lourdeau, à tous les sens du terme, et fruste, en fait, il rentre très bien dans l'écoute de la lecture qu'elle lui fait et des passages de La Peste de Camus, parce que il se représente toutes les choses et elle dit mais c'est ça, lire c'est écouter et c'est se raconter à soi l'histoire, parce qu'autrement ça reste que des mots mais c'est pas une histoire. Et à la fin de la vie de cette dame âgée, c'est lui qui va faire la lecture. Alors en même temps, c'est un travail très difficile pour lui. Il lui offre un moment un dictionnaire, on l'a entendu dans la bande-annonce, mais alors il est perdu dans ce dictionnaire parce que il cherche des mots, par exemple, il s'appelle Germain, ben, il cherche Germain dans le dictionnaire, et puis ben, ça parle que Germain, c'est les cousins de sang et tout, il dit, ben, ça parle de quoi? Alors il cherche tomate, et il n'y a qu'une variété de tomate, alors que lui est jardinier, il en connaît des dizaines, il dit, mais il n'y a rien là-dedans dans ce dictionnaire. C'est-à-dire qu'il est complètement déphasé par rapport à l'univers des livres, mais en même temps, il y entre grâce à cette vieille dame.
Oui, Marie, vous racontez jamais votre vie à l'antenne, mais vous qui avez été instit quand même, là, il y en a deux instits presque dans le film. Il y a Las Palès effrayant, et cette magnifique femme qui le...
Sont pas les meilleurs exemples, en tout cas celui de Las Palès, oui. On peut le dire. C'est pas...
Marguerite, c'est quelque part... C'est...
D'une certaine façon, oui, certaine façon. Plutôt préceptrice, oui. Puisqu'elle a un rapport individuel, unique avec Germain. En plus, ça va dépasser la relation de maître à élève. Mais pour en revenir, oui, Las Palès, il vaut mieux oublier ça, mais il y en avait.
Parlez-nous un peu de Gérard Depardieu, alors, parce qu'il y a aussi un peu les deux choses qu'on aime chez Gérard dans un film comme ça. Gérard Depardieu, c'est à la fois français pure souche,
oui.
qui connaît bien toute la langue française, on va dire, et tout son éventail, et en même temps, la subtilité du verbe.
Il excelle dans tout. Peut-être peut-il agacer certains. En tout cas, c'est pas mon cas, mais il peut jouer proprement et remarquablement n'importe quel rôle. Et peu importe son physique, il a maigri, il a grossi, maintenant il peut interpréter n'importe qui et ça marche et c'est crédible. Et là, il est parfait. Alors effectivement, Becker lui donne une grande actrice, mais vraiment très grande, Gisèle Casadesus, était en fin de carrière, c'est un de ses derniers rôles. Elle est extraordinaire aussi. Et puis, bon, Becker, vous parliez de l'ambiance du café, mais il a su trouver les acteurs. Ça y est, j'ai cherché dans mes petites notes, c'est Jean-François Stévenin, The Cook. Et Stévenin, on l'a beaucoup aimé, il nous a quittés il y a peu de temps. On avait fait une de nos premières émissions, je crois que c'est la première de la saison. On est revenu sur un de ses films qu'il avait écrit. Et là, il est plutôt, le personnage qu'il incarne est plutôt gentil et sympa avec Gérard Depardieu. Mais pour en revenir à... En fait, Gérard Depardieu avec Germain, il ne faut pas confondre. Il joue la comédie. Pour en revenir à Depardieu, on l'a vu aussi à l'aise avec les vers de Rostand dans Cyrano de Bergerac, où il est proprement fascinant, extraordinaire dans le film de Rapneau. Et puis à côté de ça, il peut être cet idiot du village, ou encore, et ça, j'en profite pour vous conseiller d'aller le voir, dans le film de Xavier Giannoli, qui est en ce moment sur les écrans, Illusion perdue, il joue le rôle d'un éditeur...
Analphabète,
mais qui a un sens du commerce extraordinaire. Et encore une fois, trois scènes parfaites. Donc, on n'a plus qu'à baisser les yeux, faut pas exagérer, faire la révérence peut-être.
Chapeau l'artiste, exactement.
Allez, on va écouter un deuxième extrait où on va entendre tout ça, on va dire, en musique.
Oh, Germain.
Tenez, ça vient de mon jardin. Oh,
merci, des fleurs et de votre jardin en plus. Entrez. Voilà, vous vous promenez avec votre dictionnaire.
Non, je vous le rends là parce que j'en ai pas l'usage, ça me sert à rien.
À rien?
Mais parce que les mots labyrinthe et compagnie, comme je ne sais pas les écrire, eh ben je ne les trouve pas. Et puis quand je les trouve, je ne suis pas d'accord. Regardez dans mon domaine, par exemple, les variétés de tomates. Eh ben, il n'y en a qu'une, l'olivette. Les autres, elles ne poussent pas dans votre dictionnaire.
Alors là, je vous rejoins, Germain, parce que c'est très incomplet, moi. J'ai cherché Morbac. Ben, je le cherche encore, il n'est pas...
Ah ben, voyez.
Oh, je vous ai même pas dit de les asseoir. Oh. Ah, non, pas là, pas là. Oh. Là.
Oui, mais... Non, mais c'est trop tard pour moi, vous savez. Ils n'ont pas besoin d'abattre à la tronçonneuse les forêts d'Amazonie pour fabriquer des dicots qui nous servent à rien, nous, les idiots, non. Non, c'est comme donner des lunettes à un myope. Tout d'un coup, on y voit trop, quoi. On voit tous les défauts, les trous, on se voit... Avec vous, j'ai essayé d'apprendre, mais ça fait du mal. C'était mieux avant, dans le flou, dans le simple.
Je vais faire le thé. Moi aussi, quand je vous entends, Germain, ça me fait du mal.
Voilà, c'est beau, hein. Il y a presque en effet des petits Rolands de Cyrano par moment. Les critiques. Alors les critiques, on en trouve deux sortes. Ce sera peut-être le mot de la fin qui caractérise ou qui donne envie peut-être de regarder ces films ou pas. J'en ai trouvé plusieurs, j'en citerai juste deux. West France, quelques idées simples et de menus propos convenus, mais il faut toujours croire à la sincérité et à l'honnêteté de sa démarche parce qu'il s'appuie sur un couple exceptionnel d'authenticité et de générosité. Et j'ai pas trouvé le bon extrait, mais en gros, il disait que c'était un film formidable. C'était dans Le Parisien, absolument délicieux. Cahier du cinéma, tous les événements et nouveautés qui ont bouleversé le monde depuis les années 50 ne semblent avoir aucune prise sur un univers qui s'auto-alimente par la seule reconduction du fantasme collectif d'une France qui n'a jamais existé. Oui, Marie Soler, c'est deux mondes qui s'affrontent.
Bah oui, de toute façon, ils ne pouvaient pas d'une certaine façon trouver grâce aux yeux des critiques des cahiers du cinéma. C'est, effectivement, il y a quelque chose où on a l'impression, et pour cela ils sont un peu sévères, mais c'est pas tout à fait faux.
Mais vous disiez que les films de Jean Becker en général de toute façon se prennent ce genre de
critiques. Oui, parce que c'est sa thématique, hein. C'est une constante dans ses films, Il montre toujours une France qui n'est pas parisienne, et on va dans des petites villes, alors on va dans la campagne ou on va au bord de la mer, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire, c'est une certaine image de la France, d'une certaine France. C'est pour ça que ça permet au cahier du cinéma d'expliquer qu'il est resté bloqué dans un continuum ou dans un espace temporel dont il n'arrive pas à sortir. C'est pas tout à fait faux, mais on pourra trouver des qualités quand même à ce film, et évidemment notamment la remarquable interprétation des deux personnages principaux et des deux acteurs principaux, Depardieu et Kasatsu, qui sont phénoménaux. Mais il sait aussi, Becker, trouver les acteurs de second rôle, puisque il y a Morane, hein,
oui.
la chanteuse, qui est,
Francine,
qui joue le rôle de la tenancière, justement, celle qui aime bien Germain. Et puis je disais, il y a Stévenin, et puis il y a Bouchité. Bouchité, il est très bon quand il fait les salauds. Oui. Il les fait remarquablement bien.
Et puis il y a le scénario de Jean-Loup Dabadie qui.
Eh oui, il faut quand même parler de lui. Oui.
Voilà, c'est un beau film à voir. En tout cas, c'était votre chef-d'œuvre humaniste du mois, La tête en friche, donc de Jean Becker. On va faire une deuxième pause et puis on va parler d'un dernier film, donc film magnifique, Adam de Mariam Touzani. Et c'est la musique que l'on entend.
Oui. Une musique qu'on entend subrepticement. En fait, c'est surtout pour se mettre dans l'ambiance du Maroc et de l'endroit où on va suivre ces femmes formidables. Je n'arrivais pas à trouver ces deux femmes formidables.
Le grand écran, c'est pour rappel pour ceux qui par hasard nous rejoindraient le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma du mois autour du plateau Louis-Marie Soler et Paul Dima qui nous accompagnent comme à chaque fois. Troisième film donc, Adam de Mariam Touzani. On va écouter un extrait de la bande-annonce, même si celle-là n'est pas en VF, on aura des extraits en VF, mais c'est pareil, ça contribue à se mettre dans l'ambiance et puis on vous racontera un peu l'histoire.
قلب على خدمه ما محتاجاش لعوينه واش معول الدوزي اللي لعنا قدام داري
لا شويه غنمشي نلقى فيه النبات
مومو ديالك عجبات الكتكواري
لا
غنخلي الدوزي عندي يومين ولا ثلاث ايام على ما ترجع لكم لا تقلبي على هذاك اللي حملك
شي داكشي اللي كيسحب
Alors l'histoire c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Samia, qui est enceinte, qui est bien enceinte, hein, 9 mois, si je ne me trompe pas, à la recherche d'un logement et d'un travail, qui frappe aux portes de la ville et qui a été obligée de quitter son village parce qu'elle porte sur elle la honte d'une grossesse hors mariage. Et elle va être accueillie par une veuve, Abla, donc autre femme, méfiante, et puis va se nouer une relation entre elle avec au milieu une petite fille. On peut dire qu'Alba aussi est une... Oui, je l'ai dit, cette femme est veuve. Donc la vie va arriver par le truchement de cette Samia au milieu de cette petite famille monoparentale. Qu'est-ce que vous ajouteriez, Paul Dima, sur l'histoire ?
Oui, c'est trois femmes qui vont se rencontrer. Et c'est un film très, très, très beau qui bat en brèche le sort des femmes célibataires au Maroc et qui sont mises un peu au banc de la société ou qui sont enfermées dans leur statut qui ne leur permet pas de vivre, d'être vivantes. Et la veuve qui tient une boulangerie c'est par l'insistance de sa petite fille de 8 ans qu'elle accepte, malgré elle, d'accueillir cette femme à la rue qui est enceinte jusqu'aux yeux. Et elle lui dit, mais c'est pour un temps court. Et puis en fait, il va y avoir une rencontre extraordinaire et se doute pas que son destin va changer grâce à cette femme qui est finie par accueillir d'abord de mauvais gré, très sèche, c'est juste pour quelques jours et tout, parce que c'est une honte d'être comme ça. Et puis, il va y avoir, autour de leur savoir-faire, de leur métier, cette Samia, la jeune femme enceinte, est très très bonne en cuisine et en pâtisserie. Et elle va permettre que se développe aussi l'affaire de cette boulangère. Et à travers ça, cette veuve va s'ouvrir à la vie, progressivement. Et puis, Samia, qui ne désire pas l'enfant qu'elle porte, va bouger elle aussi. J'en dis pas plus pour l'instant.
Louis-Marie, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la réalisatrice, donc Mariam Touzani. On peut dire donc c'est un film franco-belgeo-marocain. Cette femme donc est marocaine, née à Tanger. Et ce film, quoi, c'était son premier grand succès.
C'est non seulement son premier grand succès, mais c'est aussi son premier long métrage. Mais elle avait fait déjà d'autres choses avant, puisqu'elle avait...
Des courts métrages, Aya et Razia, c'est ça
ou... Elle avait commencé par être journaliste, oui. Spécialisée dans le cinéma, ce qui l'a amenée à vouloir tourner des films, et elle a étudié à Londres. Elle a commencé par les écrire, les films, puisqu'elle a été scénariste et réalisatrice, vous l'avez dit, de courts métrages. Et en fait, Adam est son premier long métrage. Et c'est quand même, pour un...
Primé, hein, donc.
Primé, oui. Le film avait dû être présenté, il me semble, à Cannes, dans la section Un certain regard. Et le film a eu, plus qu'un succès d'estime. Il a très bien marché. Le film est vraiment une très grande réussite et montre que cette femme, Mariam Touzani, sait faire des films, sait raconter des histoires et sait surtout les mettre en scène et les filmer.
Première femme marocaine à concourir à la course aux Oscars, ai-je lu.
Oui, oui. Déjà, chaque fois que c'est une femme, c'est exceptionnel. Et puis alors, en plus, si elle est marocaine, ça fait beaucoup d'exceptions. Je caricature un peu, mais on n'en est pas loin. Bon. Mais en tout cas, c'est une réalisatrice qu'il faut suivre.
Allez, on écoute un extrait, même si ça revient un tout petit peu sur les propos de Paul Dima, mais ça continue de nous mettre un peu dans l'ambiance.
Est-ce que c'est devant chez moi que tu comptes passer la nuit ?
Non. Je vais aller chercher un endroit où dormir.
Bon, d'accord. Tu peux venir avec moi. Dépêche-toi, je vais pas rester là toute la nuit. Retourne au lit.
Je vais pas vous déranger.
Ma fille mange là le matin, à 7h30. Ne m'oblige pas à te réveiller.
Je peux lui faire son petit déj si vous voulez.
Ça ira, merci. Bonne nuit.
Bonne nuit.
Alors, pourquoi, au pied de cet extrait, on a envie de vous dire pourquoi est-ce que vous l'avez choisi dans la catégorie chef-d'œuvre spirituel ? Qu'est-ce que ça a de spirituel, j'ai envie de dire ? Paul Dima, qu'est-ce que vous diriez ?
Ça a de spirituel au sens premier du mot, spiritus, l'esprit, le souffle. Voilà. Et ces deux femmes qui étaient emmurées dans un statut qui leur interdisait de vivre. Une veuve doit rester veuve et et porter son deuil, sa souffrance, et la vie, c'est fini pour elle. Voilà. Alors elle est très désarçonnée de cette confrontation à une jeune femme qui porte un enfant illégitime et qu'elle refuse d'abord.
Et une jeune femme qui aime la vie aussi. C'est...
Et qui aime la vie, oui. Mais qui a été contrainte de fuir toute sa famille, enfin de partir, de disparaître, parce que c'est infamant de porter un enfant qui n'a pas de père. Et de cette rencontre-là, elles vont toutes les deux se remettre à vivre grâce à l'autre. Par exemple, Abla, la boulangère...
La veuve, donc.
La veuve, depuis le décès de son mari, interdit toute musique dans la maison, et en particulier des chansons qu'elle aimait au temps de son mari. Puisque son mari est mort, finit la fête et les rires. Et Samia comprend très bien ça, et elle lui impose à un moment, dans la boutique, la musique d'une chanson qu'elle aimait, que son mari aimait aussi, et qui lui parlait à elle de l'amour, du plaisir. Et il y a un corps à corps entre ces deux femmes, parce que Samia va empoigner, au sens propre du terme, c'est-à-dire la tenir par les mains, Abla, pour l'obliger à écouter cette musique qu'elle refuse d'entendre depuis le décès de son mari. Et puis tout d'un coup, alors elle va quitter progressivement sa rigidité, elle va pleurer, et elle va réhabiter son corps de femme qui est guidé par cette jeune femme. Et on la voit revivre, c'est-à-dire éprouver des choses, sentir son corps, mais elle est guidée, mais très très fortement, il y a la force de cette jeune femme qui est enceinte, qui dit non, je te laisserai pas là, et il y a quelque chose d'un peu brutal aussi, enfin d'un peu, c'est une guidance dont elle sait que cette femme-là a besoin pour sortir de son emprisonnement. Et il va y avoir un peu le même jeu à l'inverse à la fin du film, c'est-à-dire que...
On va écouter l'extrait.
Oui.
On va écouter l'extrait, ça tombe bien, c'est celui qu'on a choisi.
Tout est de ma faute. Il n'y est pour rien. Je veux pas qu'il souffre. Tu peux toujours changer d'avis. S'il reste avec moi, il est condamné. Si je le donne, je ne saurai jamais ce qu'il deviendra.
Voilà, peut-être vous pouvez finir votre propos.
Voilà, et alors on devine à travers les quelques mots qui sont dits que cette jeune femme qui vient d'accoucher avait décidé d'abandonner son bébé. Parce qu'elle le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, je ne veux pas être la cause de son exclusion et de voilà, si je le garde, il sera un bâtard, il sera voilà, et rejeté dans
son
la société.
Pays, soit on abandonne les bébés, soit on vit en paria.
Voilà. Et puis en même temps, elle dit mais si je l'abandonne, je ne saurai pas ce qu'il devient. Et c'est elle qui se suicide d'une certaine façon à ce moment-là. Et c'est à l'inverse. C'est Abla, la boulangère, qui va l'accompagner très délicatement.
Et puis c'est aussi physique à ce moment-là. Parce
qui s'occupe du bébé, qui lui met dans les bras, qui le met à côté d'elle, il pleure, et lui dit « faut que tu lui donnes le sein parce qu'il en a besoin ». Elle dit « non, non, moi je vais le placer ». Mais c'est l'Aïd El-Fitr, et c'est la fête, et tous les bureaux sont fermés. Donc elle est obligée de lui donner le sein, autrement il meurt. Et
alors, racontez pas tout, on a déjà beaucoup.
J'arrête là.
il vaut mieux.
Paul, pourquoi est-ce que c'est un... pardon, Louis-Marie, pourquoi est-ce que c'est un très beau film, peut-être pour le mot de la fin? Qu'est-ce qui vous a plu, parlé?
C'est tout à la fois cette ambiance, la rencontre de ces deux femmes, de l'enfant aussi, l'enfant de 8 ans, j'entends par là, hein, qui a un rôle aussi important dans le film. La façon dont Marianne Touzani raconte cette histoire, le choix d'en faire pratiquement un huis clos, et puis de cette lumière, c'est un pays, on sait, c'est pays de l'Afrique du Nord,
Casablanca, oui. La médina de Casablanca,
et donc c'est très lumineux, mais là on est toujours dans une atmosphère plus une forme de semi-pénombre, quoi. On est à la fois à l'abri de la chaleur, du soleil, des regards, des choses qui peuvent venir autour et perturber l'équilibre dans lequel on vit. Et puis il suffit d'un grain de sable, enfin là en l'occurrence un gros grain de sable qui s'appelle Samia, avec le petit qu'elle porte, pour bouleverser la vie d'Abla, la boulangère, et de sa fille aussi, parce que sa fille elle a besoin d'autre chose, elle a besoin que sa mère vive pour pouvoir mieux s'en occuper. Donc c'est tout ce qui est bien montré, et tout ça, la relation, et qui montre évidemment le côté archaïque de la société qui met au ban ces femmes parce qu'elles ont eu un enfant, comment dire, hors d'une union traditionnelle.
Eh ben merci beaucoup. Trois beaux films à voir, donc dans l'ordre contraire. Donc Adam de Mariam Touzani, La tête en friche de Jean Becker, et donc Pingouin et Goéland de Michel Leclerc. Et rendez-vous est donné avec vous pour ce Ciné-Parole mardi prochain, mardi 9 novembre, 14h30, au cinéma L'ABC à Toulouse. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry. Vous pourrez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.